Ce balado vous est présenté par le portail en ligne Biodiversité Québec, votre boussole pour découvrir l'immense nature québécoise.
Bonjour à tous, je m'appelle Joëlle Spooner, je suis étudiante à la maîtrise, puis aussi biologiste étudiante au ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs depuis 2019. Puis dans le cadre de mon travail, j'ai vraiment la chance de me rendre dans tous les raccoins de la province pour observer puis étudier la faune et la flore qu'on retrouve dans toutes ces belles régions-là. Puis les informations que je récolte sur le terrain, dans le fond, ça devient des données super importantes pour moi puis mes collègues. En plus de récolter des données, bien, mon travail, ça me permet de visiter les plus belles régions de la province puis d'observer ce qui les rend vraiment uniques. Quand je suis sur le terrain, que ce soit dans les forêts d'épinettes noires de la Côte-Nord, dans les érablières de l'Estrie ou même dans la toundra du Nunavik, je suis constamment émerveillée par la beauté du territoire puis de la province. Je reviens toujours de ces sorties-là sur le terrain avec un sentiment de bien-être qui est comme difficile à qualifier, mais ça fait que j'ai vraiment toujours le goût d'y retourner.
Les sentiments dont tu parles, Joël, je les connais très, très bien. Je l'ai vécu depuis longtemps. Parfois, je me retrouve dans mon bureau, devant mon ordinateur. Je me dis, ah, j'ai vraiment envie d'être ailleurs. Parfois, on peut le faire, parfois non. Je suis à Montréal, je cours au bord du fleuve. Si c'est l'été, je saute dans le fleuve, je mets la tête sous l'eau, je regarde les cerviers. Sinon, je peux, je prends mon ordinateur, je pars en forêt, j'ai un camp de chasse en Beauce. Et je comprends très bien, c'est ce que tu ressens. Je l'ai déjà ressenti à mon travail de tous les jours, à la Société pour la nature et les parcs du Québec, plus connue comme la SNAP Québec. Et je me suis souvent demandé, est-ce qu'il y a une définition exacte pour ces sentiments? Est-ce qu'il y a un nom? Peut-être qu'ici, Maxime peut nous aider à dénicher ça.
Oui, bonjour Diego. Ce dont vous parlez, ça s'appelle la biophilie. C'est une théorie qui a été émise par E.O. Wilson au début des années 80 qui stipule et qui mentionne que, à l'intérieur de nous, dans notre bagage génétique, on a en nous développé un renforcement positif pour des moments, des émotions, des endroits où on se retrouve qui ont été utiles à notre survie. Comme lorsque Joëlle est dans des paysages ouverts au Nunavik et qu'elle a ce sentiment de bien-être-là, qu'elle découvre des espèces, qu'elle apprend à les nommer et tout ça. Lorsque tu cours sur le long du fleuve, bien, c'est un écho justement à des moments où, dans une période pré-industrielle, des endroits ouverts où on peut voir loin, donc où on se sent en sécurité, où on peut voir des proies, on peut voir des menaces, en fait, ou encore on est tout près de l'eau. Ce sont tous des choses qui ont été utiles à notre survie par le passé. Donc, on ressent de façon intrinsèque un renforcement positif lorsqu'on est exposé à ces éléments-là.
Toi, tu connais ça bien. Hein? Mais en fait, on parle beaucoup d'espace ouvert, de voir loin, mais est-ce qu'on peut reproduire ça en laboratoire? Ma question n'est pas innocente. Toi, Maxime, l'arrivée, tu es directeur de l'Insectarium de Montréal, donc tu essayes de reproduire ces sentiments-là, mais dans un espace clos, fermé. Est-ce que tu réussis? Est-ce que les gens sont vraiment sensibilisés à ce système, à cette idée de l'amour du vivant, même en étant enfermé?
Ben oui, lorsqu'on le fait, en fait, et lorsque la théorie de la biophilie a émergé, la deuxième étape qui a été mise en place, ça a été de développer une approche de design biophilique. Et notre nouvel insectarium qu'on a ouvert l'année dernière a été ancré complètement sur une approche de design biophilique. Et c'était pas quelque chose qui était... c'était pensé à l'avance, dans un sens où notre objectif à l'insectarium, c'est de faire en sorte que les gens valorisent les insectes. Donc, valorise des organismes vivants pour lesquels, normalement, ils rentrent en contact et le contact n'est pas toujours positif pour commencer. Donc, on voulait s'assurer, à travers une approche de biophilie, de design biophilique, qu'on pourrait les mettre dans un contexte positif, favorable, où il y aurait une ouverture d'esprit qui ferait en sorte qu'ils seraient réceptifs, finalement, à avoir des expériences positives avec les insectes et à faire en sorte que lorsqu'ils quittent le musée, bien, étant donné que ça a été favorable, qu'ils veulent revivre des émotions comme ça dans un contexte favorable avec les insectes, puis qu'ils apprennent à les valoriser de cette façon-là.
Mm-hmm. Oui, puis pour l'avoir visité, l'insectarium, moi, j'ai vraiment trouvé que ça ramène le sentiment d'émerveillement que tu peux avoir face à la nature, puis ça l'amène en ville, puis ça le rend disponible vraiment à un large public. Puis en plus, ça permet de voir la beauté puis la diversité du vivant qui est autour de nous. Puis dans un contexte de changement climatique, c'est exactement cette diversité-là qui est menacée. Puis quand on veut arriver à protéger cette diversité-là puis ces espèces-là face au changement climatique, la première chose qu'il faut faire, c'est connaître les espèces qui nous entourent, puis ensuite de ça, savoir où elles se trouvent. Puis une fois qu'on connaît bien son territoire, les espèces qui l'occupent, la biodiversité, bien, on s'attache vraiment vite. Là, vous êtes probablement d'accord avec moi qu'en connaissant son territoire, bien, on s'y attache. Puis ensuite de ça, ça vient super naturellement de vouloir le protéger. Fait que je pense que l'insectarium, avec sa, dans sa mission, ça doit en faire partie.
Là. Absolument, oui.
On parle beaucoup d'amour au vivant, de biophilie, on parle de biodiversité, mais en fait, le mot n'est pas si vieux que ça. Peut-être que Maxime et moi, nous étions nés quand ça a été inventé. Joël, peut-être pas. Mais est-ce que vous pouvez me donner une définition compréhensible pour tout le monde du mot biodiversité, pour commencer?
Ben oui, avec plaisir. En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est encore ce même personnage-là, Yo Wilson, en 1992, dans la première convention sur la biodiversité, qui a proposé ce nom-là, biodiversité, pour représenter ce qu'on appelle la diversité biologique. Donc, l'ensemble des êtres vivants que l'on retrouve dans un écosystème, leur bagage génétique, leur profil génétique et toutes les interactions qu'ils ont entre eux, mais avec aussi les éléments naturels et physiques de ces écosystèmes-là.
Moi, dans le fond, je la vois un peu en image aussi. Des fois, ça l'aide à mieux comprendre. Je la vois comme une toile d'araignée. Tu sais, la biodiversité, c'est vraiment comme un réseau complexe. Fait que si on s'imagine tous une toile d'araignée dans notre tête, on peut voir les nœuds qui sont l'endroit où les fils se croisent. Puis, ben, les fils, les nœuds, moi, je les vois comme étant des espèces, puis les fils comme étant des interactions. Fait que toutes les espèces sont liées entre elles par des interactions. Les interactions entre les espèces, ça peut être soit une relation prédateur-proie, un parasite qui utilise une autre espèce pour l'aider à survivre. Ça peut aussi être des relations d'entraide entre les espèces. C'est super fascinant, ça existe. Puis, ben, dans le fond, quand tu perds une espèce dans ta toile, tu coupes un fil. Là, la toile d'araignée, tu coupes un fil, elle va quand même bien tenir. Mais plus tu coupes de fil, moins elle est résistante aux intempéries, jusqu'à temps qu'elle se déchire complètement. Bien, la biodiversité, c'est exactement ça. Là, c'est un réseau d'espèces puis d'interactions. Puis plus tu perds des morceaux, plus tu perds des espèces, bien, moins elle va être résistante aux changements puis résiliente face à ces changements-là.
C'est une belle métaphore.
Mm-hmm. Je la comprends très bien parce que ma biophilie s'exprime surtout par l'amour des arachnides, araignées. J'en ai beaucoup à la maison, puis je regarde toujours la résistance des toiles d'araignées, puis bon, les petites mouches, les petits insectes, c'est prêt, mais parfois, quand il y a un bourdon qui arrive, il arrive à passer à travers, mm-hmm. où c'est, disons, la toile est beaucoup plus résistante. Donc, on comprend la fragilité surtout aujourd'hui, au défi de l'effondrement de la biodiversité. Il faut mm-hmm. vraiment une toile d'araignée tissée, serrée, puis le plus fort possible.
Oui, exactement, c'est ça. Avec le réseau de suivi de la biodiversité, là, c'est vraiment ça. Tu sais, je travaille là-dessus avec le ministère, puis c'est vraiment ça qu'on veut étudier, comprendre les changements dans la biodiversité en réponse au changement climatique. Alors, voilà.
Mais justement, c'est quoi un réseau de suivi de la biodiversité? On a parlé de la toile d'araignée de la biodiversité. Là, il faut comme décortiquer la toile d'araignée.
Ouais.
C'est quoi un réseau de suivi de la biodiversité? Puis, est-ce qu'on a quelque chose à faire là-dedans?
Oui. Ben, dans le fond, des réseaux de suivi de la biodiversité, il y en a partout à travers le monde, mais pour celui du Québec, c'est un réseau à l'échelle provinciale. Puis en gros, comment ça fonctionne, c'est qu'à des intervalles réguliers, moi, des collègues puis des partenaires, on visite des sites à travers la province, puis on va chercher des échantillons. Le genre d'échantillons qu'on peut récolter, ça peut être, on pose des pièges dans le sol pour récolter les invertébrés du sol, on va faire des captures de papillons, de libellules, on va mesurer la température de l'eau. C'est vraiment plein de choses comme ça qu'on fait. Puis on récolte ces données-là sur plusieurs sites à travers la province, puis aussi plusieurs années. Puis avec ces données-là, ensuite, ben notre objectif, c'est d'arriver à détecter s'il y a des changements en lien avec les changements climatiques. On le voit souvent comme un bon inventaire de frigo. C'est vraiment très, très drôle à dire. Mais pourquoi on fait un inventaire de frigo? C'est pour savoir qu'est-ce qu'on a, à quel endroit, puis réussir à identifier si on doit donner un petit peu d'attention à quelque chose. Fait que, tu sais, je dis pas avec ça qu'il faut aller manger nos espèces qui sont en difficulté, là. C'est absolument pas ça, là. C'est la comparaison, c'est juste au niveau du fait que c'est important de faire des inventaires, soit de frigo, mais aussi de la biodiversité avant qu'il soit trop tard puis qu'on perde des choses.
Vraiment, si je peux souligner puis amplifier l'importance du réseau, c'est l'exemple est excellent pour les insectes parce que présentement, à travers le Québec, mais à travers la planète, il y a un effondrement de la biodiversité des insectes. Et même s'il y a toujours eu des changements, il y a toujours des effondrements de biodiversité par le passé, ce qu'on voit, c'est que celui-là est probablement sans précédent. Et si on veut être capable, justement, de replénir ou restaurer notre frigo d'insectes, on doit le faire avec de l'information. On doit aussi savoir comment, à la mesure des changements climatiques qu'on a présentement, on va pouvoir modifier, adapter l'environnement pour faire en sorte qu'on va restaurer, donner une chance aux insectes de recoloniser des milieux naturels. Et pour ça, on doit être en mesure d'avoir l'information nécessaire pour identifier les endroits, les milieux naturels où ils vont pouvoir le faire. Donc, ce type de monitoring-là est vraiment important, particulièrement aussi. C'est sûr que là, je prêche pour ma paroisse, mais pour les insectes particulièrement.
Ben oui, on est vraiment au courant là, de cet enjeu-là au niveau des insectes. Là, puis c'est pour ça que le réseau de suivi de la biodiversité, on récolte vraiment une tonne et une tonne et une tonne d'échantillons d'insectes, là, entre autres. Puis avec ça, ben, ça vient vraiment un travail de moine, d'aller... C'est compliqué d'aller chercher les insectes sur le terrain, mais c'est moins compliqué que de voir les identifier après. Mais une chance, là, on a vraiment un groupe de spécialistes qui sont super bons, puis qui arrivent à classer, puis identifier les spécimens d'insectes, puis d'invertébrés. Mais même que des fois, ils n'y arrivent pas. On a un cas d'une araignée là, qui a vraiment fait le tour des spécialistes d'araignées au Québec. Là. Il n'y en a pas 1000, là, mais quand même, il a fait le tour des spécialistes d'araignées au Québec, puis il n'y a personne qui a réussi à l'identifier jusqu'à maintenant. Fait que ça reste encore un mystère à savoir si c'est une espèce qui a été introduite, si c'est une nouvelle espèce. On ne le sait pas pour l'instant, mais on espère le découvrir bientôt. Mais si jamais c'était une nouvelle espèce, ça ne serait pas la première fois qu'on en récolterait une dans le cadre du réseau de suivi de la biodiversité.
Ah oui?
Oui, ça va être ça, Maxime. On a trouvé une nouvelle espèce exotique de 1000 pattes au Québec grâce au réseau de suivi de la biodiversité. Ouais,
c'est intéressant.
Ouais, c'est le Julius Scandinavus. C'est une espèce de 1000 pattes qui viendrait d'Europe et qui serait arrivée pendant la colonisation, mais on ne l'avait pas encore trouvée sur notre territoire.
Wow!
Ouais, c'est ça, c'est super intéressant. C'est un de mes collègues, Pierre-Marc Brousseau, qui l'a trouvé, qui est en train de la documenter dans un article. Donc, ça devrait paraître bientôt, là, si jamais ça t'intéresse.
Non, mais il est cachotier, Pierre-Marc, on travaille ensemble aussi dernièrement.
Ah, ben maudit!
C'est intéressant, cette question de découvrir des espèces. Donc, même à travers la science citoyenne, en théorie, on peut tomber sur une espèce qui n'avait jamais été classée, répertoriée, etc. Là, on parlait des insectes, on parlait des 1000 pattes. Est-ce que c'est vrai qu'ils sont 1000 pattes, donc 500 paires?
Ouais, ouais. C'est une drôle de question, mais non. En fait, celui qu'ils ont nommé, il est un petit peu exagéré quand même. Là. Il est entre 22 puis 100 paires de pattes. Là. Sauf qu'il y a une espèce australienne, il fallait bien que ça soit en Australie, on s'entend, là, c'est eux qui, les autres qui ont toutes. Là. Mais elle aurait plus de 1000 pattes. Donc là, ça serait vraiment un vrai 1000 pattes.
Hey, c'est complètement fou tout ce qu'on ne sait pas sur la nature. Parfois, on pense qu'on est en train de détruire des choses qu'on n'a pas encore, connues. On parle souvent, maintenant, au Québec, d'espèces exotiques envahissantes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, exactement?
Bon, il y a deux concepts ici. Il y a la notion d'espèces indigènes, donc d'espèces qui ont évolué, qui ont originé au Québec ou dans l'est de l'Amérique du Nord. Puis ensuite, il y a des espèces exotiques. Donc ça, c'est vraiment un phénomène qui est de plus en plus important avec la mondialisation. Donc ce sont des espèces qui ont été apportées par les humains d'un endroit à un autre où ils n'étaient pas, dispersés de façon naturelle et qui ont réussi à s'établir parce qu'il y avait des conditions environnementales équivalentes qui leur ont permis de s'introduire. Ces espèces-là, souvent, vont aussi, en fait, bénéficier d'avantages que les espèces indigènes n'ont pas. Donc, ils n'auront pas de prédateurs. Donc, ils vont pouvoir profiter de ça pour devenir super abondantes et dans certains cas, créer en fait des extinctions locales. Et on apprend à travers le dernier rapport de l'IPBES, en fait, qui est un peu le GIEC de la biodiversité, que les espèces envahissantes exotiques sont la cinquième cause de menace pour la biodiversité. On apprend même que, en plus, donc la première cause, c'est la destruction de l'habitat, la conversion d'habitat naturel en habitat agricole, en milieu urbain. Bon, évidemment, la surexploitation des ressources naturelles aussi, les changements climatiques dont on parle de plus en plus, qui maintenant, avant, n'exacerbaient que ces facteurs-là, mais sont rendus un des facteurs les plus importants, et la pollution. Les gens connaissent la pollution, s'attendent à ce que ça ait un impact, mais il y a beaucoup plus que ça. Donc, c'est ça. Donc, on parle beaucoup des changements climatiques, mais il n'y a pas uniquement, Diego, ceux-ci qui sont impliqués dans le déclin de la biodiversité. Et les espèces introduites en exotiques, ben, ça correspond ou contribue jusqu'à 60 % des extinctions globales d'espèces documentées dans les 50 dernières années et plus de 90 % dans des endroits comme les îles où souvent il va y avoir eu des adaptations exceptionnelles des espèces qui vont vivre sur les îles puis vont être beaucoup plus susceptibles justement à les menaces que les espèces introduites vont apporter.
Souvent, quand on pense à une espèce exotique envahissante, c'est peut-être parce qu'on a vu trop de fois les films Alien, on pense quelque chose de laid qui t'entend, il marche vers nous. Mais ça peut être quelque chose de vraiment beau, quelque chose de cute, comme on dit à tous les jours. Puis, par exemple, au parc Chartrand, à Longueuil, l'état de la forêt est en train de se détériorer. Il y a une population des cerfs de Virginie qui est trop importante, qui est en train de tout manger parce qu'ils sont fins. Même s'ils sont cute, ils mangent tout. Là, est-ce qu'on est face à une espèce exotique envahissante? Les mots se servent de Virginie, donc on imagine que quelqu'un l'a apporté de la Virginie des États-Unis jusqu'ici. Ouais.
Non, malgré son nom, là, c'est, le cerf de Virginie, ce n'est pas une espèce exotique et ce n'est pas non plus une espèce envahissante. C'est un sujet vraiment complexe, là, le cerf de Virginie, puis je pense vraiment qu'on pourrait passer comme un épisode au complet à parler du cerf, mais là, je vais juste... je ne rentrerai pas dans les détails, là, mais en gros, le cerf, c'est une espèce qui a comme bénéficié de la présence humaine par... tu sais, c'est vraiment rare. Là, d'habitude, on dit que toutes les espèces de la présence humaine, ça leur nuit, mais le cerf, ça l'a aidé par le changement dans l'habitat puis aussi par la diminution du nombre de prédateurs. Fait que là, ça fait que le cerf se retrouve en très grande abondance dans certains milieux. Puis là, ben, comme tu as dit, Diego, il va nuire à la biodiversité végétale souvent. Alors, ça il va avoir des effets négatifs là, dans l'environnement. C'est un bon exemple un peu de toile d'araignée qui est comme déréglée, là.
Oui, en fait, ce que tu mentionnes par rapport aux loups, une des raisons pour laquelle, un peu comme les araignées, qu'on essaie d'éradiquer tout ça, les loups et certains prédateurs qui étaient des menaces pour les humains par le passé ou des menaces pour les animaux domestiques, et ils ont été éradiqués partout où les humains se retrouvent, mais c'est ça il y a quelque chose de sous-jacent à tout ça. Là. Une des raisons pour laquelle ils les ont éradiqués aussi, c'est que on a parlé de la biophilie au début du podcast, mais il y a aussi l'inverse de la biophilie qui est la biophobie. Et dans certains cas, s'éloigner de certaines choses qui étaient menaçantes, avoir un comportement de fuite par rapport à ça, ça a été utile à notre survie aussi. Donc, ça explique des fois certains comportements que les humains ont eus par rapport à des prédateurs qui n'étaient pas nécessairement, maintenant qu'on a des fusils, qu'on a d'autres outils, encore des menaces pour nous, mais qui auraient fait en sorte qu'on les aurait éradiqués là, autour des milieux urbains.
Je comprends, mais les gens, normalement, habitent dans des maisons, en ville, ne sont pas envie d'avoir, par exemple, des araignées. Moi, je les aime, mais la plupart des gens vont mettre quelque chose pour s'en débarrasser ou vont juste détruire les toiles d'araignée, etc. ça ressemble loin de nous, toute cette expression de la biophilie. Ben, parfois, on aime aller dans un parc national, etc. Mais c'est encore loin. Comment ramener ça au centre de notre vie ou même ça, comment contribuer à rendre la toile d'araignée plus forte? Qu'est-ce qu'on peut faire comme citoyenne? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les scientifiques à suivre la biodiversité, à protéger la biodiversité?
Oui, mais tu n'es pas le premier, Diego, là, à se poser cette question-là. Il y a des plateformes de sciences citoyennes là, qu'on appelle, dont iNaturalist, qui est en ligne, qui est super populaire. Puis rapidement, comment ça fonctionne? C'est une application sur le téléphone ou un site web. Puis tout ce que ça te prend, c'est une caméra ou un téléphone intelligent. Puis comment ça fonctionne? C'est quand tu sors à l'extérieur, que ce soit dans ton jardin, en forêt, dans un parc, peu importe, tu prends des photos de tes observations. Il faut que ça soit une observation vivante, généralement. Là, donc une plante, un oiseau, champignon, insecte, n'importe quoi. Puis ensuite, tu prends en note la date puis le lieu de ton observation. Puis tu importes ça sur la plateforme iNaturalist. Puis ensuite, toi, tu peux faire l'identification à l'espèce de ton observation ou laisser ça au groupe de naturalistes qui se trouvent sur la plateforme qui vont aller identifier ta photo. Ensuite, quand plusieurs personnes s'entendent sur la même espèce pour une observation, ton observation va passer à ce qu'on appelle un calibre recherche, puis peut être utilisé par des scientifiques justement pour publier des articles, faire de la recherche. Donc, c'est vraiment des données qui peuvent être utilisées puis qui sont vraiment super pertinentes.
Mm-hmm. Oui, moi, je suis un grand fan de sciences participatives, notamment pour les insectes aussi, à travers certains projets qu'on a qui sont pour le monitoring des papillons comme eButterfly, mais il y a aussi des projets comme eBird qui font le monitoring des oiseaux à travers le monde qui sont très importants pour la documentation, le suivi de la biodiversité. Mais la science participative, il y a un autre élément. Donc, Diego, ce que tu mentionnais par rapport à la biophilie, il y en a trois niveaux. Le premier niveau, c'est notre relation avec l'environnement, avec d'autres organismes vivants. Mais le deuxième niveau qui est important, c'est la communication de cette information-là. Donc, ce que Joël mentionnait, nommer les insectes, nommer les plantes, être capable de pouvoir partager cette information-là avec d'autres êtres humains. Parce que par le passé, c'était important de pouvoir indiquer aux gens où se trouvaient les choses parce que c'était dont on se nourrissait, où on devait se protéger, parce que c'était important pour notre survie. Mais donc, maintenant, ce comportement-là se reproduit de cette façon-là en partie. Puis le dernier, justement, pourquoi la biophilie est importante, puis comment, à travers la science participative, on peut y contribuer, puis le solliciter, c'est le troisième niveau qui est d'apprendre à veiller à notre environnement qui nous protège, qui nous nourrit, puis qui est essentiel pour notre survie. Donc, le réseau biodiversité, finalement, c'est une émancipation sociétale d'un comportement individuel et, on va dire, collectif et communautaire à plus petite échelle qui se faisait par le passé dans un mode pré-industriel.
Moi, j'ai entendu parler des bioblitz, mais je connais pas trop ça. Est-ce que tu connais ça?
Oui, les bioblitz, en fait, c'est hyper populaire pour les insectes aussi, mais c'est hyper populaire pour les plantes et tout ça. C'est un groupe d'individus qui va se donner rendez-vous dans un parc, à un endroit, et pendant l'ensemble d'une journée, leur objectif, ça va être de tout documenter les organismes vivants, de les dénombrer à cet endroit-là. Donc, ça va faire un instantané, si on veut, de la biodiversité à cet endroit-là. Puis des bioblitz, il y en a à travers le pays. Et donc, quand on collige finalement ces efforts de dénombrement-là, ça nous donne un selfie, si on veut, de la biodiversité à ce moment-là. Mais aussi, il y a une perspective d'entraînement. Il y a des experts qui sont impliqués, donc qui vont éduquer les gens qui participent à recenser cette biodiversité-là à travers les bioblitz, puis qui vont contribuer finalement à créer cette communauté-là, ce niveau 2 de la biophilie. Wow. Ouais.
C'est intéressant. Hein? Bioblitz, c'est comme une marathon de données. Là. C'est plusieurs personnes au même endroit qui font plusieurs observations, puis ça s'accumule, puis ça finit par être une observation comme de plus grande qualité. Mm-hmm. Mais disons que c'est une belle façon d'exprimer sa biophilie avec son cellulaire à la main, etc. Est-ce que cette masse de données à la fin a une utilisation réelle dans le monde de la science? Est-ce que ça sert à quelque chose qu'on fasse tout ça? Parce que là, ça me donne envie. La prochaine fois que je fais une promenade en forêt, etc., je ne vais pas dire la prochaine fois que je vais à l'insectarium, sinon je vais photographier les insectes à l'intérieur de l'insectarium, puis ça ne marche pas. Comme ça, il faut vraiment être en nature. Mais si j'essaye de joindre l'agréable à l'utile en ayant nature, est-ce qu'il y a vraiment une utilité pour la science avec majuscule, pour les biologistes, pour les gens qui font le suivi de la biodiversité au niveau mondial? Ça finit où tout ça?
Ouais. Ben, je peux y aller. Ben, je vais répondre comment à ces questions rapidement. Il y a des nouvelles techniques, là, même statistiques, qui permettent d'intégrer ces données-là à des inventaires traditionnels. Là. Je dirais, inventaires traditionnels, c'est des inventaires, c'est planifié par des biologistes, super calculés. Mais là, il y a des nouvelles méthodes qui permettent d'intégrer les données de sciences citoyennes à ces données-là pour faire, mettons, des super bases de données là, qui couvrent un super grand territoire, plusieurs années. Fait que vraiment, là, des données de sciences citoyennes, c'est super, super pertinent pour un travail de biologiste.
Oui, absolument. Toutes ces informations-là sont entreposées dans ce qu'on appelle la Banque mondiale d'informations sur la biodiversité. Elle est accessible, elle est ouverte à tous les chercheurs à travers le monde. Puis ce qu'on voit dans les 15 dernières années, c'est qu'il y a eu une augmentation exponentielle des publications qui utilisent des données de sciences participatives et qui les combinent aussi avec des approches statistiques pour standardiser les efforts différents qui sont faits avec des méthodes traditionnelles pour faire en sorte que, justement, ces jeux de données-là puissent être utilisés. La force de la science participative aussi, c'est que, contrairement à un laboratoire de recherche, contrairement à un groupe de recherche, ça peut se faire à l'échelle d'un continent. Ça peut se faire à l'échelle de la planète maintenant, en temps réel, pour étudier finalement des phénomènes en lien avec les changements climatiques, comme les changements de phénologie, comme des gradients latitudinaux et tout ça, que des groupes de recherche individuels n'auraient jamais pu faire par le passé.
Mais c'est fascinant parce qu'on on voit souvent la phrase écrite sur des t-shirts « on protège ce qu'on aime ». Mais on peut aller plus loin, on dit « on protège ce qu'on aime », »,« on aime ce qu'on connaît », »,« on connaît ce qu'on observe ». Donc, si je me fie aux conseils qu'on s'est donné entre nous dans cette conversation, observons davantage pour connaître davantage, pour aimer davantage, pour protéger davantage.
Mm-hmm. Ouais.
Merci infiniment.
Ouais. Ça nous a fait plaisir.
Et citoyennes, à vos cellulaires quand vous êtes en nature.
N'oubliez pas les insectes dans vos photos. Là,
ouais.
On en veut.
Ouais, c'est super pertinent. Merci beaucoup, Diego et Maxime.
Ouais, merci à vous deux, c'était vraiment plaisant.
Vous voulez en découvrir davantage sur la biodiversité québécoise? Visitez le site biodiversitéquébec.ca.